Voilà, nous arrivons bientôt à la fin du livre de Josué. Nous avons encore des leçons formidables à prendre dans ce livre. Et nous allons commencer au chapitre 18. Je vous encourage à lire tous ces passages vous-même. Si vous venez un peu ici à l'avance ou à l'heure et que vous avez du temps, profitez-en pour lire ces passages ici même. Prions. Seigneur, merci pour ta parole,
Lord, thank you for your word.
Qui est la vérité, Seigneur. Dans ce monde où il y a tant de fausses vérités, Seigneur, entre guillemets, il est bon d'avoir cette vérité absolue. Seigneur, lorsque ta parole demeure en nous, tu nous as franchis en vérité. Il est tellement bon, Seigneur, d'avoir cette liberté en toi. Merci pour la richesse de ta parole. Merci de ce que ton Esprit Saint l'a insufflé. Il a inspiré les auteurs humains. Et Seigneur, il est là présent pour la rendre vivante à nos cœurs. Seigneur, nous voulons que le Saint-Esprit ait toute liberté d'agir ce matin dans nos cœurs pour transformer nos vies. Sois glorifié, Seigneur. Amen. Le livre de Josué, nous avons vu, c'était le récit de la prise de possession de la terre promise par Dieu à Abraham et aux Israélites. Nous avons vu comment Dieu leur avait donné la victoire sur les peuples qui habitaient ces régions. Nous avons vu comment ils ont commencé à prendre possession. Les Israélites qui avaient franchi la mer Rouge, seulement deux sont toujours présents. Deux sur plus de 600 000. Pourquoi ? Parce que les autres avaient manqué de foi. Et ces choses ont été écrites pour notre enseignement. Nous aussi, nous pouvons manquer de foi. Mais sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Et il est merveilleux de voir ce que le Seigneur peut faire avec des gens qui lui font confiance. Et c'est intéressant de remarquer qu'il n'y avait que deux personnes, donc Caleb et Josué, qui ont cru Dieu, en Dieu, pour leur donner la victoire dans cette terre promise. Et le premier territoire qui a été alloué, ça a été Hébron, qui a été donné à Caleb. On a parlé de lui, on a vu qu'à 85 ans, il se sentait aussi fort qu'à 40 ans. Pourquoi ? Parce qu'il avait cette foi en Dieu qui le motivait. Et nous aussi, si nous avons foi que Dieu va faire de grandes choses au travers de nous, dans nos vies ou en utilisant nos vies que nous lui remettons,
using our lives that we give to him.
Ah, je peux vous garantir que vous allez avoir une vie passionnante.
I can guarantee that you'll have a life full of passion.
Une vie riche.
A rich life.
Une vie abondante.
Abundant.
J'ai pas dit une vie sans problème.
I didn't say a life without problems.
Mais une vie qui vaut la peine d'être vécue à fond. Ça, c'était Caleb. Et le dernier, nous allons voir que ça va être Josué. Caleb, lui, il avait dit, donne-moi cette montagne. Et Josué lui avait donné cette montagne avec la ville de Kiriath Arba, qui était devenue Hébron, la ville de communion avec Dieu. Kiriath Arba. Communion. Et c'est vrai que c'est souvent au milieu des épreuves, des combats, qu'on ressent une vraie communion avec Dieu. Quand on essaye d'avoir une petite vie tranquille, garantie de tous les côtés, la vie n'est pas satisfaisante. La vie n'est pas riche. Le Seigneur a dit, celui qui cherche à protéger sa vie, à la garder, va la perdre. Celui qui, au contraire, la donne pour le Seigneur va la retrouver. Et donc Caleb, c'était un exemple parfait de cette confiance en Dieu, cet abandon dans Dieu. C'est un modèle exemplaire. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde partageait le même enthousiasme. On va lire à partir du verset 1 du chapitre 18. Toute la communauté des Israélites s'assembla à Silo. Ils y placèrent la tente de la rencontre. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des Israélites qui n'avaient pas encore reçu leur part d'héritage. Josué dit aux Israélites, « Jusque à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ? Choisissez-vous 3 hommes par tribu et je les enverrai en mission. Ils se lèveront, parcourront le pays. » Et ils feront le relevé suivant leur héritage et reviendront auprès de moi. Ils se le répartiront en 7 parts. Judas restera dans ses frontières au sud et la maison de Joseph restera dans ses frontières au nord. Vous donc, vous ferez le relevé du pays en 7 parties et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort ici même devant l'Éternel notre Dieu, mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous. Car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont pris en Transjordanie à l'est leur héritage que Moïse, le serviteur de l'Éternel, leur a donné. Ces hommes se levèrent et partirent. Josué avait donné cet ordre à ceux qui allaient faire le relevé du pays. Allez, parcourez le pays, faites-en le relevé et revenez auprès de moi. Puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. Ces hommes partirent, traversèrent le pays et firent sur un document le relevé en 7 parties selon les villes. Ils revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel, et il y fit le partage du pays entre les Israélites d'après leur répartition. On a déjà parlé du fait on parle toujours des 12 tribus d'Israël. Mais que souvent la tribu de Joseph est remplacée par la tribu de les 2 tribus de ses enfants, Éphraïm et Manassé.
Manassé.
Et en fait, suivant les cas, on retombe toujours sur une liste de 12 tribus. Parce qu'ici, par exemple, les enfants, les descendants de Lévi, d'où étaient issus les prêtres,
Children of Levi, who came from Levi, the priest,
n'avaient pas d'héritage tangible, n'avaient pas de territoire qui leur était alloué directement. Donc il y a déjà eu deux tribus ennemies qui ont été servies à l'est du Jourdain. Ça, c'était ceux qui avaient vu que la terre du Jourdain était formidable. Il y avait la Bazan, il y avait de riches pâturages. Et puis, il s'était dit, pourquoi chercher ailleurs ce qu'on a déjà trouvé ? Et il s'était contenté de ce qui était bien. Au lieu de rechercher ce que Dieu avait de mieux pour eux. Nous en avons déjà parlé, mais souvent dans nos vies, nous devons chercher ce qu'il y a de mieux, ce que le Seigneur a de mieux pour nous. Si nous ne le faisons pas, nous pouvons certes le servir, nous pouvons certes avoir une vie qui compte, mais c'est tellement dommage de rater ce que Dieu a pour nous. Donc ici, on ajoute les sept tribus. Il y avait déjà deux tribus ennemies qui étaient servies. Et là, il est dit qu'il restait donc sept tribus qui n'avaient... Et on avait vu la semaine dernière qu'à l'intérieur, Juda, Ephraïm et une demi-tribu de Manassé avaient déjà pris du territoire de l'autre côté du Jourdain. Donc 12 moins 2 fois 2 et demi, ça fait 12 moins 5, il reste 7 tribus. Et apparemment, eux, ils n'ont rien fait. Ils sont là, mais ils n'ont pas levé le petit doigt. On a vu que Dieu avait donné le territoire en aidant les Israélites à gagner des victoires tous ensemble sous le commandement de Josué. Sous le commandement de Josué. Vous vous souvenez des grandes victoires de Jéricho, de Ai. Et une fois que ces victoires étaient remportées, chaque tribu devait nettoyer son territoire. Ça nous rappelle que si Jésus a remporté la victoire à la croix sur l'ennemi, nous avons notre part à jouer aussi dans notre victoire personnelle sur le péché. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la vie spirituelle, c'est un combat. Et nous devons prendre l'armure de Dieu et combattre. Mais cela, eux, ils n'avaient pas voulu aller prendre leur territoire. Et Josué se met un peu en colère et lui dit, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du territoire que le Dieu de vos pères, l'Éternel, vous a donné? En fait, ce qu'il leur reproche littéralement, c'est jusqu'à quand vous allez être aussi mou que ça?
Actually, so,
Soft, yeah, wimpy. Mm-hmm. Ils étaient bien, la victoire avait été remportée.
They were fine. They already won the victory.
Ils étaient tous rassemblés à Silo où ils avaient installé le tabernacle.
They had already gathered at Shiloh where they had set up the tent of meeting.
Mais ils se contentaient de cette situation. Est-ce que nous aussi, des fois, nous nous contentons d'être sauvés?
Sometimes we happy just to be saved?
Ou est-ce qu'on montre l'enthousiasme d'un Caleb qui veut prendre du territoire, qui veut gagner?
Or do we show the enthusiasm of Caleb who wants to take land, who wants to win?
Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que c'était le groupe le plus nombreux, ils étaient 7. L'apathie est contagieuse.
Apathy is contagious.
Le manque de diligence.
The lack of diligence.
Une autre application, c'est dans la vie de l'Église.
Application is in the life of the church.
Est-ce que je me contente de venir le dimanche?
Am I happy just to come on Sunday?
Ou est-ce que je cherche à m'impliquer dans la vie de l'Église? Est-ce que je me contente de papillonner? J'ai entendu qu'il y a un concert cette semaine dans telle église. Il y a un tel pasteur, un tel prédicateur qui va être dans l'autre. Je viens voir mes amis à cette église aujourd'hui. Mais jamais je m'implique pour œuvrer dans l'église. Un pasteur expliquait qu'il y avait eu des grands travaux dans leur église. Ils avaient installé un nouveau local. Et la congrégation était invitée à participer aux travaux. Et plusieurs personnes, des familles même entières, sont parties lorsque les travaux ont commencé. Et puis ils sont revenus après la fin des travaux. Aucune pure coïncidence, non. Nous aussi on a des travaux. Là on a confié les travaux principaux à des entreprises professionnelles. Mais croyez-moi, il va rester plein de travail pour nous tous. Et là aussi, c'est est-ce qu'on va aller prendre possession du territoire que le Seigneur nous donne? Ou est-ce qu'on va se contenter de flotter avec les marées et les vents? C'est important de le faire non pas parce que le Seigneur a besoin de vous, mais parce que le Seigneur vous promet que vous allez être bénis en le faisant. Le Seigneur n'a pas besoin de nous. Mais nous avons beaucoup de joie lorsque nous travaillons pour lui. Et l'apathie ne produit pas la joie. C'est dans le combat, c'est dans le travail acharné. Travail acharné, plein de zèle. Il ne s'agit pas d'un zèle charnel pour dire on va tout faire nous-mêmes, mais vraiment de suivre le Seigneur qui veut que nous agissions pour lui. Donc on vous tiendra au courant. Il y aura de la peinture à faire, il y aura plein de nettoyage, il y aura tas de choses.
Well, so we'll keep you up to date. There's a lot of painting, a lot of work to be done, a lot of cleaning.
Il est intéressant de remarquer qu'ils envoient des géomètres pour relever le terrain. Trois géomètres par tribu. John Corson, un pasteur que j'aime bien souvent citer, se demande, mais où est-ce qu'ils avaient appris ces techniques de géomètres? Sans doute, ils avaient pris ça en Égypte ou par leurs parents qui avaient connu ces techniques en Égypte. Et ce pasteur fait une application intéressante. Il dit qu'en fait, souvent les jeunes disent, je ne veux pas faire d'études, je vais aller servir le Seigneur. Il est très important, si le Seigneur vous a donné les capacités, l'intérêt, de poursuivre des études dans tous les domaines. Le Seigneur ne laisse rien être gaspillé. La géométrie que vous aurez appris à l'école, vous serez peut-être à même de la mettre en pratique pour les plans du nouveau local. Si vous voulez le servir en tant que missionnaire ou pasteur, peut-être des études bibliques sont importantes aussi. Verset 7 dit que les Lévites, eux, leur héritage, c'est le service du Seigneur. Ça, c'est très intéressant. Parce que lorsqu'on pense à un héritage, moi je sais que dans ma famille, il y avait une vieille tante en Corse qui était supposée avoir accumulé des Napoléons, des louis d'or. Dans une vieille lessiveuse. Elle est décédée. On n'a jamais trouvé la lessiveuse. On ne sait pas si c'était une légende. Mais quand on pense à un héritage, on veut des sous, on veut des maisons. Mais là encore une fois, le Seigneur nous dit l'héritage le plus précieux, c'est son service. C'est là qu'on va trouver la vraie satisfaction, la communion avec lui. Et servir Dieu, c'est donc un trésor. Et donc, encore une fois, lorsque vous allez mettre la main à la pâte au local, vous allez recevoir plus que vous allez pouvoir donner. Vous allez être enthousiaste pour ce projet. Vous allez pouvoir inviter des amis, parler aux voisins, aux commerçants du quartier. Peut-être vous me dites, mais moi je ne suis pas lévite. Désolé, mais nous sommes tous des lévites. 1 Pierre, l'Apocalypse, nous disent que nous sommes un peuple de prêtres. Un peuple de sacrificateurs.
First Peter, in Revelation, the word says that we are a kingdom of priests.
1 Pierre 2:9 nous dit, vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce, c'est-à-dire un service royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
Belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness
Dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 6, il parle de Dieu qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs, c'est-à-dire des prêtres pour Dieu son Père, et qu'à lui soit la gloire et le pouvoir au siècle des siècles.
In Revelation 1:6, it says, and he has made us to be a kingdom and priests to serve his God and Father, to him be glory and power forever and ever. Amen.
Et donc, ces géomètres viennent, et là nous allons voir par la suite, dans le reste des chapitres 18, 19, 20, le lot qui est attribué à chaque tribu.
The water that was, attributed to each tribe.
The lot.
The,
mm-hmm. Encore une fois, le mot attribué, ça ressemble au mot tribu parce que ça vient, c'est la même idée.
And there the word attributed, is related to the word tribe, the same idea as in both.
Et vous avez noté que Josué, en fait, pour décider, utilise un tirage au sort. Verset 8 disait, je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. Et donc à l'époque, le Saint-Esprit n'avait pas été donné de façon permanente à chaque chrétien, à chaque croyant. Et donc c'est par cette technique qu'on recherchait la volonté du Seigneur. Et on va voir que chacun s'est retrouvé avec quelque chose de différent. Ça, ça doit nous rappeler que notre lot à chacun dans la vie, il est différent de celui des autres. Et qu'il faut absolument éviter de comparer notre situation à celle des autres. Parce que le seul résultat, ça va être de l'envie, même du désespoir.
The only result will be envy and even,
despair.
Despair.
Parce qu'on va se dire, ah, si j'étais aussi riche que lui,
say, oh, only as rich as he was.
Si je pouvais jouer du piano aussi bien qu'elle,
etc.,
etc.
Et cetera, et cetera.
Au lieu de se concentrer sur ce que Dieu nous a donné, et de le lui consacrer entièrement. On va rapidement survoler le lot de la tribu des fils de Benjamin, d'abord à partir du verset
11.
Verset 28 résume en disant qu'ils avaient 14 villes et leurs villages. Ensuite, on passe à Siméon. Là, verset 9 du chapitre 18.
And there in the verse 9 of chapter
18. Pardon, premier verset du chapitre 19, verset 9.
Excuse me, the first verse of chapter 19.
On voit que l'héritage des fils de Siméon fut pris sur la contrée des fils de Juda, car la part des fils de Juda était trop grande pour eux. Ça, c'est intéressant de se demander, mais pourquoi est-ce que les fils de Juda, on leur avait donné un territoire, mais c'était trop grand pour eux? Si on croit que le Seigneur pouvait communiquer sa volonté par ce tirage au sort, ça veut dire qu'il avait prévu un grand territoire pour Juda.
He planned out a big inheritance for the child of Judah.
mais qu'eux, par manque d'application, par manque de zèle, par manque de consécration, n'avaient pas été capables de prendre tout ce territoire. Et c'est aussi une question qui s'adresse à moi. Est-ce que je suis prêt à prendre tout le territoire que le Seigneur veut me donner? Ou est-ce que je vais laisser des choses me distraire et me contenter d'une petite part de ce qu'il a pour moi? Ça peut être une question individuelle. Ça peut être aussi une question au niveau d'une assemblée ou d'un mouvement chrétien. Est-ce qu'on va prendre du territoire, tout le territoire que le Seigneur a pour nous à Nice ou au-delà? Ou bien est-ce qu'il va falloir qu'il envoie quelqu'un d'autre pour prendre tout le territoire? Encore une fois, Dieu n'a pas besoin de moi. Si je ne fais pas le travail qu'il a pour moi, il trouvera quelqu'un d'autre. Mais quel dommage quand on verra ça avec du recul, de se dire, il y avait toutes ces choses et par manque de travail, par manque de zèle, par manque de consécration, qu'est-ce que j'ai pu gaspiller ? On passe au verset 10 au fils de Zabulon. Verset 15 nous dit qu'ils eurent 12 villes et leurs villages. Le quatrième lot fut sorti pour Issachar, verset 17. Verset 24, c'était pour Aser, la tribu d'Aser. Le sixième lot, verset 32, c'était pour les fils de Nephtali. Le septième lot, c'est pour Dan. Dan, c'est intéressant parce que il est dit au verset 47, que le territoire des fils de Dan leur échappait. Alors les fils de Dan montèrent et combattirent contre les Shems, ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent et l'appelèrent Dan du nom de Dan leur père. Et donc on voit que là ils ont trouvé de la résistance. Et le territoire, ils n'arrivaient pas à le conquérir. Le territoire leur échappait. Et pourtant le Seigneur avait promis à Josué que partout où la plante de leurs pieds passerait, le territoire serait à eux. Il leur donnerait la victoire. Donc quelque part ils ont manqué d'endurance, peut-être manqué de foi, et ils ont fait ce qu'on fait souvent, ils ont fui, ils sont allés ailleurs, ce sera plus facile ailleurs. Et c'est vrai qu'ils ont pu battre, donc ils sont montés au nord d'Israël. Ils ont pu remporter des victoires, s'installer dans cette région du nord. Mais en fait, lorsqu'on voit l'histoire de cette tribu, on s'aperçoit que ce n'était pas un bon choix. Parce qu'ils étaient les premiers à être confrontés aux envahisseurs. Et l'histoire de Dan n'est pas une histoire de victoire. Et ça, ça nous interpelle. C'est vrai que des fois, la situation peut être difficile où nous sommes. Ça peut être sur votre lieu de travail, où on se moque de votre foi, et votre désir, c'est de trouver un travail dans une organisation chrétienne. Pouvoir être dans la louange et la communion fraternelle à tout moment. Mais si le Seigneur a d'autres plans pour vous, s'il vous a placé là où vous êtes, c'est parce qu'il a un plan, du territoire à conquérir. Il veut que vous enduriez, que vous soyez persévérants. Pas longtemps, j'ai fait une étude sur Galates 6-9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Peut-être que vous en avez assez d'inviter vos voisins qui n'ont pas l'air d'être touchés par ce que vous leur dites sur le Seigneur. Ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au moment convenable, au moment voulu par le Seigneur. Revenons au texte, 19:49. Pour finir, lorsqu'ils eurent hérité du pays d'après ses frontières, les Israélites donnèrent à Josué, fils de Noun, un héritage au milieu d'eux. Et donc, c'est intéressant, si c'est révélateur de l'état d'esprit de ces tribus. C'est une fois qu'ils sont tous servis qu'ils pensent à leur responsable, à leur chef. Ça montre aussi la personnalité généreuse de Josué, qui ne pensait pas à lui, mais qui pensait aux autres. Bien sûr, Josué, on l'a souvent répété, c'est une préfiguration de notre Josué à nous, de Jésus, c'est le même nom. Qui n'a pas fait cas de sa vie. Qui avait cette pensée, qui n'avait pas... Dans Philippiens 1, 2, 5, ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, mais qui n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'était humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et on voit comment Jésus a toujours pensé à vous d'abord, à moi d'abord.
In Philippians 2, verses 6 through 8, how Jesus had this same mindset, who being, your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in the very nature of God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross.
Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que il va avoir une ville qu'il demande. Mais c'est une ville dans la montagne d'Éphraïm, c'est pas une ville facile. il doit rebâtir la ville, il doit travailler. Avant de s'y installer. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que le nom de cette ville, Timnath-Sera, c'est que ça veut dire la portion abondante. Encore une fois, le Seigneur veut nous montrer que ce n'est pas la facilité qui va nous satisfaire. Ce qui va nous satisfaire, c'est de faire sa volonté là où il nous place. Ce qui est intéressant, ce n'est pas de regarder la portion du voisin, mais de se concentrer sur ma portion. Et ça, ça va être abondant. Notre pasteur de Seattle est en mission à Saint-Pétersbourg pour implanter une autre église. Il y a déjà deux Calvary Chapel. Et ils font aussi des concerts dans la rue. Là, ils peuvent inviter les gens à recevoir le Seigneur. Et dans la semaine, il y a 150 personnes qui se sont avancées pour recevoir le Seigneur. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait à Nice? Si le Seigneur nous a placés ici, c'est parce qu'il a une œuvre qu'il veut faire ici. Et je ne dois pas regarder à Saint-Pétersbourg. Steve et Suzy qui sont à Djibouti n'ont pas à regarder à Nice ou Saint-Pétersbourg. Mais se centrer sur leur portion. Et ça, le Seigneur nous le promet, ça c'est la vie abondante qu'il a pour nous. Encore une fois, ce n'est pas les résultats qu'il veut voir, c'est votre cœur, c'est votre service. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et remplis-nous de ton Esprit Saint pour te servir. Donne-nous une semaine où nous ne te dirons pas non. Lorsque tu nous encourages à dire une parole encourageante, à écrire un mot, à téléphoner, comment pourrions-nous te dire non? Béni sois-tu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment cette semaine et marchez à sa suite. Amen. Amen. Amen.